Objectifs, les objectifs du modèle managérial et ce sur quoi il est fondé. Alors moi, je commencerai par dire, parce que c'est pas inintéressant vu les discussions préalables, que le nouveau modèle managérial a fondamentalement cherché à importer au sein du secteur privé, parce qu'évidemment la modernisation managériale, elle a commencé dans le secteur privé avant de se déverser dans le secteur public. Eh bien, la grande idée, c'était d'essayer d'importer dans le secteur privé les valeurs professionnelles du service public. Oui, parce que il faut bien comprendre, le nouveau modèle managérial, il est né en réaction à mai 68. Trois semaines de grève générale, avec occupation des entreprises. Donc, traumatisme patronal énorme, et cette idée qu'il fallait ramener les ouvriers, les ouvrières dans les entreprises, les usines, dans le cadre de l'ordre social capitaliste, et que ça demandait beaucoup d'efforts en termes de rénovation du modèle pour essayer de les séduire, pour les convaincre, pour les contenir, pour les contraindre, pour les contrôler, mais il fallait trouver des méthodes nouvelles et qui relèvent aussi bien de la métamorphose identitaire que de formes d'organisation du travail nouvelles. Donc je dirais que le bain dans lequel a été chauffé ou concocté le nouveau modèle managérial, c'est celui de trouver à imprégner les salariés du privé de cet esprit du secteur public, à savoir on adhère à ses missions. On l'a entendu tout à l'heure, même si on n'est pas d'accord, on veut faire parce que on est complètement convaincu de la nécessité, de l'utilité de ce qu'on fait, donc on veut le faire, on veut bien faire, et malgré tout, on va essayer de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui fascinait beaucoup les patrons du secteur privé, disant cette adhésion individuelle et collective aux missions de l'entreprise, de l'institution en l'occurrence, à sa valeur, à ses intérêts, etc., c'est quelque chose qui amène du consensus, qui permet de développer des stratégies de mise au travail tout à fait favorable à la performance économique et puis favorable à la rentabilité des entreprises. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à transférer cette intériorisation par les salariés des valeurs professionnelles, de métiers relevant du service public et cette espèce d'autodétermination à vouloir bien faire, même en transgressant parfois, mais voilà. Et ça, c'est à la base, et ça s'est manifesté au début du modèle par une période participative dans les années 80, je ne sais pas si certains se souviennent encore, il y avait ce qu'on appelle des grandes démarches participatives pour développer une culture de l'entreprise, pour développer du consensus, faire parler les salariés entre eux, entre les différents services. Alors il y avait des groupes ad hoc, il y avait des cercles de qualité qui avaient cette vocation-là, les groupes d'expression directe et collective qui étaient promus par la loi Auroux étaient utilisés pour valoriser, véhiculer justement des valeurs collective, d'adhésion, d'intériorisation, etc., des missions, des valeurs. Ça, c'est quelque chose qui a été très très important pendant les années 80, qui a coûté beaucoup d'argent aux entreprises, vraiment aux directions d'entreprises qui se sont lancées dans cette campagne, et tout ça se faisait bien entendu sur le temps de travail, donc les salariés étaient embringués là-dedans. Bon, mais ça, c'est un aspect d'autant plus intéressant que une vingtaine d'années plus tard, cet esprit-là remouliné dans le reste du modèle va se rabattre sur le secteur public en contradiction profonde avec la réalité et les fondements réels de ces valeurs de professionnels, de ces valeurs de service public qui vont être complètement dévoyées. Donc cet aller-retour, ce chassé-croisé est assez intéressant. Voilà. Et il illustre assez bien ce que voulait, à mon avis, le management privé comme public, c'était ne pas laisser dans le public les agents être les seuls détenteurs du sens du travail et essayer d'influencer les salariés du privé pour être loyal, pour qu'ils soient le plus loyaux possible envers leur direction, parce qu'ils adhèrent aux missions et qu'ils se sentent une identité qui est en osmose et tout à fait compatible avec les directives de la direction. Voilà. Bon, je voulais faire cette introduction parce que elle me semble intéressante à avoir en tête. Mais en réalité, comment s'est construit, c'était pas la réalité avant, mais je dirais en dehors de ça, comment s'est construit le nouveau modèle managérial? Moi, je dirais que en gros, il y a quatre piliers. Le premier, qui est assez disruptif par rapport au modèle antérieur, puisque c'est les termes qu'on veut employer maintenant, c'est celui de l'individualisation, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, de l'individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation du travail. Et ça, c'était une idée extrêmement intéressante parce que c'est un véritable cheval de Troie. Dans la mesure où l'objectif de cette individualisation était de déstabiliser, voire même de casser les collectifs informels de travailleurs qui avaient été à l'initiative, en gros, de mai 68, puisque c'était des grèves du ras-le-bol, comme on disait, qui n'étaient pas nécessairement encadrées par les organisations syndicales. C'était les salariés de base qui avaient ce qu'on appelait en sociologie à l'époque les collectifs informels de travailleurs, qui se disaient « on en a marre, on peut plus continuer », etc. Et les organisations syndicales couraient un peu derrière pour dire « oui, on va vous demander des augmentations de salaire ». Mais, en réalité, le démarrage de ces grèves et de ces manifestations, c'était des spontanément des ouvriers qui voulaient autre chose et qui avaient le sentiment qu'en poussés un peu par ces collectifs, etc., ils arriveraient à imposer des transformations réelles. On sait que ce qu'ils ont obtenu, c'était très très important, 30% d'augmentation pour les salaires les plus bas, mais c'était pas précisément ce qu'ils visaient. Hein. Donc, le patronat s'est fait en fait en quelque sorte le relais de ces aspirations en disant voilà, ce que vos syndicats en gros n'ont pas obtenu puisque ça ne les intéressait pas, nous on va se concentrer sur l'amélioration de la qualité, ce qu'on appellerait maintenant la qualité de la vie au travail. Vous voulez de la reconnaissance, vous voulez de la liberté, de la dignité, hein, on disait que c'était beaucoup des grèves pour la dignité, ben, nous patronat, nous allons vous la donner, mais ça passe évidemment par une individualisation, parce que il faut pouvoir mesurer, appréhender la qualité de l'engagement de chacun, si on veut lui donner la liberté, l'autonomie qu'il souhaite avoir, la reconnaissance qu'il mérite. Bon, il faut passer par la mise à mal de l'équation fondamentale antérieure à travail égal, salaire égal, mais il faut accepter d'atomiser les situations de travail. Voilà. Donc, et c'était très difficile à combattre par les organisations syndicales, parce que ça soulevait véritablement une espérance de nombre de jeunes qui se disaient, bah, si les règles du jeu changent, si on nous prend au sérieux chacun d'entre nous et qu'on valide la qualité de ce qu'on fait, mais ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Bon, et donc, ils se sont mis en place, je vais très vite parce que faudra qu'on discute, et on n'a pas tellement de temps, se sont mis en place des politiques d'individualisation, puis de personnalisation de la relation de chacun à son travail, avec des objectifs, on en a parlé, individualisés, bon, et des évaluations, elles aussi, personnalisées par rapport aux performances effectuées, et puis progressivement une psychologisation de la relation de chacun à son travail. Alors, dans l'individualisation et la personnalisation de la relation de chacun à son travail, s'est introduit déjà une mise en concurrence systématique les uns avec les autres, puisque les primes n'étaient pas égales, le responsable avait un budget fini, donc s'il donnait une plus grande prime à l'un, il donnait une plus petite prime à l'autre. Et donc, mise en concurrence de chacun avec les autres, et puis progressivement, avec la psychologisation, justement, une mise en concurrence de chacun avec soi-même, avec lui-même. C'est-à-dire qu'il faut se dépasser, il faut montrer qu'on cherche l'excellence, Il faut montrer qu'on est le meilleur, qu'on accepte, comme on dit, de sortir de sa zone de confort pour grandir en relevant les défis que votre supérieur hiérarchique vous propose. Vous allez vous révéler à vous-même en vous révélant à votre hiérarchie. Et puis, quand on recrute maintenant, les recruteurs ont comme mot d'ordre de la part des directions de trouver des gens résilients et aptes au bonheur. Hein. Non, mais vraiment, c'est pas ce qu'il y a. Ils disent, il y a des gens qui sont jamais contents, on n'arrivera jamais à obtenir quoi que ce soit d'eux. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui ont une espèce de propension naturelle à être heureux et surtout résilients, qui savent rebondir après des échecs, être à la hauteur. Donc, il y a une psychologisation qui aboutit même à ce que disent certains de mes collègues, comme Vincent de Gaulé-Jacques, une narcissisation de la relation de chacun à son travail. Voilà, on est le meilleur, on est le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et d'ailleurs, le management offre des possibilités pour que ça se manifeste. Par exemple, dans des restos de McDonald's, ils proposent de faire des concours du plus beau bébé. Alors chacun arrive avec des photos de bébé, et puis il y a un jury, on désigne le plus beau bébé, puis on va le fêter au café d'à côté avec beaucoup d'alcool, etc. Donc il y a cette espèce d'encouragement mais c'est des réalités. C'est-à-dire qu'on va chercher ce qui est éminemment intime, ce qui est de l'ordre de la personnalité de chacun, ses aspirations propres, ses fantasmes aussi les plus importants. Ben c'est cela qui va être stimulé par la hiérarchie. Même on va utiliser les peurs, les inquiétudes, les angoisses. Voilà, ce sont des éléments qui sont utilisés. On parle de management des affects, hein, de gestion des émotions. C'est pas des choses qui sont cachées. Non, il faut savoir gérer chacun en fonction de sa personnalité et de ses dimensions les plus intimes. Donc au détriment, ça c'est ça qui, à mon avis, il faut retenir, c'est au détriment de la mobilisation de la professionnalité. On s'occupe pas de la professionnalité tellement. On se dit, bon, on peut les former, voilà, mais le problème, c'est d'avoir des gens qui sont adaptés à notre système de travail et qui correspondent véritablement à ce qu'on attend d'eux. C'est le fameux savoir-être. Mais effectivement, c'est une dimension extrêmement importante qui renvoie à tout le travail des recruteurs, à tout le travail des DRH, etc. On veut une population de gens. C'est pour ça, hein, on va chercher ceux qui seront capables de faire cette métamorphose identitaire dont je parlais tout à l'heure, en parlant du chassé-croisé, valeur du service public, valeur du service privé. Il faut qu'ils soient des gens idoines, adaptables, qu'on va chercher. Bon, alors on pourrait dire pourquoi pas. Pourquoi pas transformer le travail en un lieu où chacun puisse se révéler, se réaliser, se satisfaire narcissiquement, finalement, pourquoi pas? Mais le problème majeur de ce modèle, c'est que ces sollicitations qui sont faites sur la psychologie de chacun et son envie de se réaliser, de s'exprimer dans le travail, eh bien, cela vient se fracasser contre la réalité du deuxième pilier qui est celle de l'organisation du travail. Parce que l'organisation du travail dans laquelle chacun est sursollicité pour s'exprimer, se révéler afin d'être reconnu, eh bien cette organisation du travail, elle reste fondamentalement inspirée des principes tayloriens. Voilà. Et on en a parlé, c'est-à-dire que dans des économies où il y a de plus en plus de tertiarisation, on voit apparaître les procédures, les protocoles, les process, les reportings, les nomenclatures, les codifications, les normes, mises au point par des spécialistes de grands cabinets internationaux. Donc, mises au point par des experts qui sont censés détenir, concentrer toutes les connaissances d'organisation du travail nécessaires, notamment à travers la pratique du benchmarking, c'est-à-dire la veille. La veille, on va voir ce qui marche le mieux partout dans le monde, dans n'importe quel secteur, et on va essayer de l'adapter dans tel autre. Je vais vous donner deux petits exemples pour vous montrer cette dimension parfaitement abstraite qu'on trouve dans un bouquin sur le benchmarking qui a été écrit par deux personnes. C'est Emmanuel Didier et Isabelle, donc j'oublie toujours son nom, mais vous le retrouverez facilement si vous faites benchmarking et Emmanuel Didier. Bon, il montre par exemple comment à un moment donné, dans des hôpitaux, la direction a décidé de choisir comme modalité de réception et d'accueil aux urgences les mêmes modalités que celles qui sont mises en place à l'aérogare de Roissy pour les départs d'avion. Comme si on pouvait comparer les populations de gens qui arrivent aux urgences et qui sont complètement paniqués et cassés avec celles des voyageurs qui vont prendre l'avion pour des raisons d'affaires ou pour partir en vacances. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais si, ça marche très bien, la manière dont sont canalisés les fils, dont sont réceptionnés les gens. Voilà, on va le transposer de la... comme si... Hein? Merci, Emmanuel Didier et Isabelle Bruno. C'est difficile à retenir parce que c'est quatre prénoms, donc j'arrive jamais. Oui, il m'en manque toujours. Hein. Enfin, bon. Et un autre exemple qu'il donne et qui est très intéressant, il disait à un moment donné, on a proposé de donner des primes dans les commissariats aux policiers. Alors, à quoi articuler les primes? Vraiment, c'est facile, à la baisse du taux de délinquance. Mais comment ça s'est traduit? Par le fait que les policiers dissuadaient les gens qui voulaient porter plainte. Mais non, on n'y arrivera jamais, ça ne marchera pas, ne perdez pas votre temps déposant plainte, etc. On a des cas comparables qu'on n'a jamais réussi à résoudre, etc. Donc, paf, moins de plaintes, le taux de délinquance du coup officiellement baissé, prime qui a augmenté pour les policiers. Donc, on voit bien que ce sont des manières d'organiser et d'orchestrer le travail qui n'ont rien à voir avec l'essence même du métier. C'est même contraire à ce qu'est le métier. Donc, cette logique d'organiser le travail par des gens qui sont abstraits, il y a un excellent livre de Marie-Anne Dujarrier qui s'appelle « Le management des incarnés » et qui montre bien qui sont ces planeurs, comme elle les appelle, hein, parce que à la fois ils planifient le travail des autres, mais en même temps ils planent parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Bon. Et elle montre bien que on leur demande d'avoir une vision abstraite de la réalité du travail de terrain, mais de bien prendre en compte les besoins en termes de rentabilité, notamment à court terme. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il fonctionne. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment une contradiction phénoménale entre le premier pilier qui est soi-disant là pour satisfaire les aspirations les plus profondes des travailleurs de réalisation, d'expression de soi, et puis la réalité d'une organisation du travail qui, elle, reste complètement pensée par d'autres dans une logique taylorienne, c'est-à-dire d'inscription de la contrainte et du contrôle dans la définition même des tâches, et avec une expulsion en gros, des savoirs, des connaissances détenues par les salariés eux-mêmes. Parce que vous savez que la pensée même de Taylor, elle repose sur un vrai constat, enfin, un constat réel en tout cas, qui est que le savoir, c'est du pouvoir. Donc si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Et à l'époque de Taylor, c'est les ouvriers qui définissaient, les ouvriers de métier, qui définissaient eux-mêmes l'organisation de leur travail, et dit-il, ça se soldait par une flânerie systématique. Donc, bon, il disait, je comprends très bien cette flânerie, parce que les ouvriers ne veulent pas risquer des accidents ou une usure précoce, ils veulent... pouvoir ne pas travailler beaucoup plus que ce qu'ils ont, enfin que ce qu'ils reçoivent comme rétribution. Donc voilà, moi j'aurais fait pareil, dit-il. Et alors c'est là que c'est intéressant parce que il a certes inventé une technique organisationnelle, Taylor, mais il a surtout pensé qu'il fallait une idéologie pour la légitimer. Il n'y a jamais de nouveau modèle sans idéologie extrêmement constituée pour fonder et légitimer le modèle. Taylor, quelle était son idéologie? Il dit: quels sont les gens pénalisés par la flânerie systématique des ouvriers? Il ne dit pas que c'est le capitaliste qui pourrait avoir plus de profitabilité. Il dit c'est le bonheur américain qui est pénalisé parce que les consommateurs, les citoyens américains, en raison de cette flânerie qui grève la productivité, donc ces citoyens américains, ils ont peu de produits à prix abordable sur le marché. Et donc, ils sont privés du plaisir de consommer, du plaisir d'avoir des loisirs avec des divertissements proposés par des objets, etc. Tout ça parce que les ouvriers sont seuls à détenir les savoirs nécessaires pour l'organisation du travail. La pensée de Taylor, c'est ça. Il faut dépouiller les travailleurs de leur savoir, de leur connaissance, de leur expérience et de leur métier. Et transférer tout ça au patron qui va s'entourer d'ingénieurs, et c'est là encore la deuxième intuition fondamentale de Taylor. Il prend le bonheur américain, c'est-à-dire les intérêts supérieurs, le bien commun de la nation, mais en même temps, il a une autre intuition fondamentale. Il dit, c'est pas le capitaliste qui va décider, ce sont les ingénieurs qui vont mobiliser la science. Et la science, elle est neutre, universelle, impartiale et objective. Donc, voilà, on a comme objectif le bonheur américain et comme ressource fondamentale la science qui est objective et qui est par définition l'essence même du progrès. Voilà. Et donc, il dit, on va constituer une organisation rationnelle du travail, une organisation scientifique du travail, parce qu'on se sera approprié de toutes les connaissances, de tout le corpus de connaissances détenues par les ouvriers, et on va pouvoir le ramener aux ingénieurs qui, grâce à la science, vont définir la one best way, la meilleure manière de travailler, la plus efficace, la plus productive. C'était extrêmement bien bouclé, au point que les gens de gauche à cette époque-là étaient persuadés qu'il ne fallait pas combattre cette organisation rationnelle du travail. Il fallait mener la lutte sur le plan de la redistribution des richesses produites grâce à cette organisation fondamentalement rationnel du travail, scientifique. Et d'ailleurs, Lénine, dans la première décennie du XXe siècle, l'a introduite en Union soviétique en disant, voilà, ça va permettre à la classe ouvrière de gagner du temps et elle pourra prendre les rênes du pouvoir et assurer donc la dictature du prolétariat. Bon, pour vous dire, de Taylor, il faut retenir deux choses. La violence de la démarche qui consiste à dépouiller les ouvriers de leur savoir, de les transformer en exécutants, mais en même temps cette capacité de légitimer cette démarche très très violente et de promouvoir une organisation où légitimement les gens qui travaillent sont considérés comme agis par une organisation du travail pensée en dehors d'eux, sont ravalés au rôle d'exécutants. Voilà. Et ça va continuer donc dans le nouveau modèle managérial, avec les procédures, les protocoles, les process, tout ça, et avec cette idée qu'il ne faut pas que les salariés, qui dans cette période-là sont de plus en plus des salariés du tertiaire, hein, dans les années, à partir des années 80, 90, 2000, etc., sont de plus en plus des gens du tertiaire, des ingénieurs, des cadres, des médecins, des enseignants, etc., il faut pas les laisser décider de la façon dont ils vont travailler en fonction de leur métier et de ce qu'ils savent de leur métier. Il faut pouvoir toujours asseoir une emprise sur eux, avoir la main sur eux, pouvoir les dominer pour les obliger à travailler d'une façon rentable, du point de vue des intérêts de la direction, évidemment, mais de manière objectivement légitime. Et donc, les procédures, les protocoles, les process sont là pour obliger tous les salariés, quel que soit leur niveau de formation, de se conformer strictement à des méthodes de travail qui sont considérées, du point de vue des directions, comme les plus rentables, les plus efficaces, les plus performantes, les plus productives. Donc c'est un déni du métier qu'on a bien établi, parce que à côté il y a la survalorisation de l'humain, de la personnalité de chacun. Voilà, je vais un peu rapidement, mais bon. Le deuxième pilier, c'est ça. Le troisième pilier, paradoxalement, je considère que c'est la pratique du changement permanent. C'est bizarre pour un pilier, mais c'est parce que la pratique du changement permanent, c'est une méthode de mise en obsolescence des savoirs, des connaissances et de l'expérience. Un peu comme Taylor, il a anéanti ce corpus de connaissances et d'expériences détenues par les ouvriers en allant leur piquer et les transférant au niveau des bureaux, mais les managers de la moderne vont décider consciemment de mettre en obsolescence systématique les savoirs, les compétences détenues par les salariés, en changeant tout le temps. Alors c'est restructuration des départements et des services, recomposition des métiers, changement systématique de logiciels, des mobilités systématiques imposées, déménagement imposé, voilà. Et donc tout change tout le temps, les salariés perdent leurs repères, ils sont totalement déboussolés, ils n'ont plus la maîtrise cognitive de leur de l'environnement, de leur travail, du contenu de leur travail, et donc ils seront effectivement bien contents de trouver toutes ces procédures, ces protocoles et ces process et ces... pour pouvoir travailler convenablement dans un environnement où tout change tout le temps. Et ça, c'est aussi une source de fatigue, de burn-out, parce qu'il leur faut tout le temps essayer de faire des efforts énormes pour justement retrouver cette maîtrise cognitive du contenu et l'environnement de leur travail, tout en sachant que ça va rechanger dans 2 ou 3 ans. Et il y a le burn-out, c'est un épuisement professionnel, mais c'est aussi un effondrement personnel, parce que ces bons professionnels ne peuvent plus se faire confiance à eux-mêmes. Ils ne peuvent plus faire confiance à ce qu'ils savent, à leur expérience, à tout ce qui constitue leur fierté de professionnel. Donc il y a un effondrement de l'image de soi qui accompagne l'épuisement professionnel et qui peut créer effectivement des burn-out et des mises en difficulté extrêmement importantes des gens. Donc moi je pense qu'on peut appeler ça une précarisation subjective, stratégique des salariés. Alors qu'ils peuvent être fonctionnaires, agents de l'État, ils peuvent être en CDI, mais ils n'auront jamais la certitude de pouvoir assumer correctement leur travail et de ne pas faire de fautes professionnelles qui, par exemple, pourraient les mener à être l'objet d'un licenciement pour faute professionnelle. Donc, il y a toujours cette idée, et puis avoir des actes qui peuvent avoir des répercussions extrêmement dangereuses pour les patients, les clients, les usagers. Moi, j'ai rencontré, par exemple, des agents de la SNCF qui s'occupaient de maintenance et qui me disent « mais je tremble à chaque fois qu'une locomotive part parce que j'ai coché des cases, mais c'est pas du tout ce qu'on faisait avant, où on contrôlait systématiquement, on savait, etc. Là, on a un temps limité pour le faire, il faut que ça parte. Mais après, je vous dis pas que j'ai pas d'angoisse en me disant « est-ce que j'ai pas oublié des choses fondamentales qui sont pas sur le papier et sur la prescription ?» Bon, et les aides-soignantes comme les infirmières disent la même chose. Elles disent souvent une heure après que je sois rentrée à la maison, j'ai peur du coup de fil qui me dirait que tu as fait une connerie et voilà, il y a un patient qui est en danger de mort. Il y a ce sentiment de... c'est pas simplement faire du beau, du bon travail, mais être aussi responsable vis-à-vis des gens que l'on a sous sa responsabilité, en quelque sorte. Hein. Bon, donc ça, et puis ça me fait penser... à cette femme qui disait on a trop de pouvoir parce qu'on choisit les gens sur 1500, on en choisit 150, on a trop de pouvoir, et c'est vrai que derrière sont des vies brisées éventuellement, peut-être même des gens qui vont avoir des dépressions, peut-être même des suicides, on ne sait pas. C'est quand même terrible d'être amené à faire de façon non maîtrisée, non professionnelle, des choix ou des gestes professionnels qui peuvent s'avérer dangereux pour autrui. Bon. Donc, cette précarité subjective, elle est importante et c'est une résultante de ce changement perpétuel qui a pour vocation à ce que les gens acceptent de travailler comme de simples exécutants et n'essayent pas de se rebeller. Parce que, en gros, on peut dire que ces professionnels qui sont dans cette précarité subjective, ils sont un peu comme des apprentis à vie. Et les apprentis, c'est pas ceux qui vont remettre en question quoi que ce soit, qui vont dire non, excusez-moi, mais moi je sais comment il faut faire et c'est pas comme ça. Évidemment, un apprenti à vie, il va essayer d'être le plus possible conforme à ce qu'on attend de lui, à faire comme il faut pour éviter les reproches. Là, c'est pareil. Finalement, les professionnels, ils deviennent des apprentis à vie parce que tout bouge tout le temps et qu'ils n'ont pas l'occasion et la possibilité d'avoir des certitudes dans la manière de travailler et quant aux résultats de leur travail. Donc ça, c'est le troisième pilier. Quatrième pilier, alors là, c'est le côté un peu risible du modèle managérial, c'est le côté cocooning. Parce que effectivement, tout cela se traduit au niveau des médias par une espèce de tonalité que renvoie le monde du travail, à savoir de souffrance, de mal-être, de risques psychosociaux, de burn-out, de suicide, de consommation de substances psychoactives pour tenir au travail. Donc voilà, cette idée que c'est dangereux ce qui se passe. c'est délétère ce qui se passe en termes de santé publique, même que le monde du travail est dur, il est maltraitant par rapport aux gens qui viennent travailler. Et donc il y a ces DRH du bonheur et de la bienveillance qui font des déclarations d'amour tous les matins à leurs salariés en disant « on se lève tous les matins en pensant à vous, comment est-ce qu'on peut améliorer votre bien-être, votre situation ?» Alors, ils inventent des séances de massage, de méditation, des séances de fou rire aussi, parce que ça détend, vous rigolez une demi-heure, il y a un coach qui vient vous faire rire une demi-heure, vous rentrez travailler, ça va très bien, quoi. Bon, et puis on vous propose des week-ends festifs ou des soirées festives, on vous propose des possibilités de faire de sport, du baby-foot, de ping-pong, enfin voilà, il y a tout un encadrement de douceur, de tendresse, pour ceux qui sont évidemment bien aptes au bonheur, on va voilà les aider dans la réalisation de ce bonheur, et ça en gros c'est le quatrième pilier qui vient encore plus embrouiller les salariés qui sont déjà perdus dans la tourmente du changement et qui comprennent pas comment on peut se réaliser face à un travail pensé et prémâché par d'autres. Et bien là on va leur dire, mais regardez, vous pouvez pas ne pas être heureux dans cette entreprise qui vous aime tellement, etc. Bon, bref. Ces quatre piliers font donc un nouveau modèle managérial qui existe surtout dans les grandes entreprises et dans les grandes institutions, mais que l'on retrouve également dans les PME qui sont notamment fournisseuses ou sous-traitantes. Et on leur demande, par via de certifications et puis par la présence de certains cadres qui sont là pour assurer la conformisation de ces PME aux méthodes de management moderne, donc qui diffusent toutes ces pratiques. Moi, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'enquêtes dans des entreprises publiques ou des administrations, dans des grandes entreprises privées, mais aussi dans des PME. Effectivement, on voit qu'il y a une certaine uniformité, une certaine homogénéité de cette dimension, quoi. L'individualisation, personnalisation, au détriment de la professionnalité, évidemment une professionnalité qui est soumise à la taylorisation de l'organisation du travail dans le cadre d'un changement permanent, et puis avec des DRH réparateurs par rapport à des situations aussi difficiles. La question qui se pose, c'est comment en sortir. Alors, le patronat, oui, comment sortir ? Parce que malgré tout, avant l'épidémie de Covid, il y avait eu quand même, je ne sais pas si vous avez été sensible, ce procès de France Télécom, où il y a eu quand même une condamnation des trois principaux dirigeants de France Télécom de la fin des années 90 et des années 2000, qui était d'ailleurs un peu le modèle d'expérimentation du secteur public. Hein. Comment transformer les fonctionnaires qui sont habités par des valeurs de service public en de vrais commerciaux à la recherche ou de vrais salariés à la recherche de la productivité la plus forte. Donc, les trois dirigeants de France Télécom avaient été condamnés dans les deux instances, ils se pourvoient maintenant en cassation, pour harcèlement moral institutionnel. Ça en dit long sur l'idée de stratégie. C'est pas un propos complotiste que je vous tiens, c'est au contraire ce qui a été mis en évidence par le procès, la mise en place de stratégies réfléchies à l'aide de consultants pour pouvoir promouvoir en gros un personnel ou une main-d'œuvre dans les salariés du public comme du privé qui soit adapté aux modalités à la rationalité néolibérale de rentabilité à court terme. Mais c'est vraiment comme ça que ça se décline. Donc il y a quand même ce sentiment d'insatisfaction qui naît à partir de ce travail dont on voit bien que ça se passe pas de la manière la plus consensuelle, la plus heureuse, etc. On voit bien que les jeunes, ils ont pas tellement envie d'entrer ni dans le privé, dans le salariat privé ni public. Hein. On voit les difficultés qu'il y a à recruter parce que ces jeunes, ils entendent sur les réseaux, mais ils entendent aussi à la maison leurs parents parler de leur vie au travail. Et moi, j'ai interviewé quelques jeunes qui le disent. Quand on entend les parents à table, ça fait pas envie. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, ceux qui répondent à ces questions, ces remises en cause un peu, c'est le patronat encore de nouveau. Ce sont malheureusement pas les organisations syndicales qui sont toujours un peu à courir derrière. Parce qu'elles n'ont pas véritablement de modèle et d'expertise en matière d'organisation du travail. C'est normal parce qu'il n'y a pas de contre-modèle. Il n'y a pas de modèle alternatif dans le monde. Il n'y en a pas. Il faut l'inventer. C'est difficile de l'inventer en marchant, en combattant, en luttant, etc. Mais c'est vrai que les organisations syndicales, sur la question de l'organisation du travail, elles sont en difficulté. Elles ont tendance à courir derrière un patronat qui est super imaginatif. Alors, quelles sont les deux dernières avancées révolutionnaires et innovantes du patronat? Ce sont les entreprises libérées, d'un côté. Hein. Vous connaissez ça?
Oui.
Non? Ben, y en a qui ne connaissent pas. Alors, c'est-à-dire, il y a un jour un patron qui a une illumination et qui dit « Je ne veux plus être patron, je veux être simplement un leader et je vais libérer mes salariés. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire libérer? Eh ben, abat la bureaucratie, tout ça dont on a parlé, abat l'administration, c'est un peu dans la veine de Grébert. Vous connaissez les travaux de l'anarchiste Grébert, bullshit jobs, non? Ça vous dit rien? Ben, c'est une critique de l'administration, une critique de la bureaucratie. Ben, eux, ils partent là-dessus en disant ça maintient en état d'impuissance totale les salariés, ça nous coûte cher, parce qu'ils sont quand même très réalistes. On va s'en passer, on va faire confiance à nos salariés. Et puisqu'on va leur faire confiance, on va pouvoir leur donner des tâches qui, auparavant, relevaient de spécialistes ou de l'encadrement. Alors, notamment, les salariés qui, grosso modo, vont faire la même chose qu'avant, mais ils auront en plus, au sein de petits groupes qu'ils formeront, des responsabilités qui correspondent à ce qu'ils appellent l'automotivation, l'autodisciplinarisation, l'automanagement, ils le disent comme ça. Donc c'est les salariés qui vont s'automotiver, s'autoplanifier, s'automanager, etc. Et comment ils vont le faire? Eh bien, par exemple, ils vont avoir les responsabilités de DRH. C'est eux qui vont gérer leurs absences, leurs vacances, leurs primes, et c'est pas rien. Voilà, toutes ces problématiques RH, ça va être entre vous. On s'en occupe plus, même les relations avec le client. Mais ça, c'est pas mal de faire intervenir le client directement sur les salariés qui produisent ce que le client attend. Ça met la pression, ça fait rentrer le client dans l'atelier ou dans le bureau. Et puis, ils vont pouvoir aussi avoir des responsabilités financières pour s'acheter de l'équipement, des matériaux, etc. Moyennant quoi, ça permet du point de vue des directions d'entreprise de faire des économies fabuleuses parce que ils suppriment les 9 dixièmes de la hiérarchie intermédiaire et de proximité. Les 9 dixièmes, ils suppriment une partie des directions opérationnelles aussi. Donc ils font des économies fabuleuses et les pauvres salariés, parce que c'est vraiment comme ça, libérés, hein, ils ont à faire, en plus de leur boulot, toutes ces tâches de gestion de la relation avec le client, de gérer les absences, les congés, les primes, les mobilités, enfin voilà. Bon, alors, quand vous vous posez la question de savoir, oui, alors, mais de combien ils sont augmentés, ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont tellement plus heureux que vraiment ça ne se pose plus dans ces termes, c'est ce qui vous explique. Et les syndicats, oh, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de syndicats alors que nous, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de pouvoir? Ce sont les salariés qui ont tout le pouvoir. Et quand on pose la question, comme je l'ai fait une fois, parce qu'il y avait un colloque avec 600 personnes sur la question des entreprises libérées, puis il y avait les grands gourous des entreprises libérées, les grands leaders libérateurs, il y en a un qui a dit « je prends 3 questions ». Alors moi, j'étais devant, je dis « excusez-moi, mais est-ce que le concept d'entreprise libérée est compatible avec la subordination, le lien de subordination dans le salariat ?» Parce qu'il reste, hein. La réponse a été, Parce qu'il tutoie tout le monde, ce gars. Pourquoi tu me poses une question à la con comme ça? Voilà, devant 600 personnes. Pour vous dire le degré de discussion de la part de ces gens-là, c'est fabuleux, hein. Et ils sont vraiment dans une... C'est une secte, en gros. Il y en a un qui a dit à ce colloque, il a dit, nous, on libère tout le monde, vraiment tout le monde. Parce qu'il y a ceux qui acceptent d'être nos followers. Ils le disent comme ça, hein. Ceux qui sont nos followers, qui vont intérioriser la vision qu'on a de ce que doit être l'entreprise, sa place sur le marché, la façon dont elle doit se fonctionner, eh bien, ils sont libérés parce qu'on leur fait confiance, ils travaillent, voilà. Après, il y a cette idée de subsidiarité. Diarité, qui est que c'est celui qui fait qui sait. Voilà, ils disent c'est leur refrain, voilà, leur slogan, celui qui fait il sait. Donc on leur fait confiance, ils font. Et puis les autres, on les libère aussi. Ceux qui veulent pas intérioriser, ceux qui veulent pas, eh ben on leur dit de prendre la porte. Donc on les libère aussi. Mais ils le disent comme ça. Ils le disent avec ce cynisme-là. Voilà. Donc ça. Alors il y a, et c'est pas anodin ou anecdotique, hein. Michelin, ça concerne Michelin, pas tout, mais certains établissements de Michelin, d'Airbus, de Kiabi, Maïf, Decathlon, même Pôle emploi pour certains de ces agences, si vous avez des entreprises libérées, peut-être bientôt, par la direction, hein, pas par les étudiants ni par les profs. Bon, voilà, il y a ça. Ou, alors, autre innovation dans laquelle se retrouvent parfaitement les patrons, c'est on est tout à fait d'accord pour faire travailler des jeunes qui sont réticents au salariat, qui veulent... Mais oui, donc, on va les faire travailler comme auto- ou micro-entrepreneurs, comme dans le cadre des plateformes ubérisées. Voilà, on n'est pas du tout contre, allons-y. Voilà. Donc, le patronat, il a plein d'idées et il est sans cesse en train de renouveler ses modalités d'exploitation, de maltraitance des salariés, parce qu'on est tous d'accord que ces soi-disant indépendants, ils sont dans des situations extrêmement précaires, puisque du point de vue des droits, des garanties, des protections, ils en ont extrêmement peu, et ils sont en fait extrêmement dépendants économiquement des donneurs d'ordre et des plateformes. Bon, alors voilà, il y a tout ça. La question qui se pose, comment est-ce que pourquoi est-ce que rien ne bouge, rien ne change, alors qu'on a des organisations syndicales qui sont quand même présentes sur le terrain, etc. Et moi, je pense d'un point de vue sociologique qu'il y a un élément qui effectivement verrouille toute possibilité de transformation, de contestation, d'abord de contestation et de transformation possible de ce modèle qui est vraiment totalement délétère, hein, eh bien c'est le lien de subordination, justement. C'est ce lien de subordination qui, avec la modernisation, est devenu de plus en plus personnalisé aussi. Parce que auparavant, le lien de subordination, il existait, mais il était géré, on peut presque dire, par les collectifs de travail. Quand on est un collectif informel de travail, qu'on est une vingtaine, etc., eh ben, on peut avoir le sentiment de détenir un micro contre-pouvoir. On peut peser sur la hiérarchie, sur le contremaître, en le menaçant d'une grève du zèle, ou en lui faisant comprendre qu'on va pas se laisser faire, qu'on n'est pas d'accord. C'est des choses qui ont été analysées en sociologie du travail, dans les usines. Voilà. On peut, n'importe qui ne peut pas, alors s'il y a du harcèlement, bien sûr, enfin, les autres sont là quand même, et font généralement corps pour limiter la casse. Mais avec l'individualisation et la personnalisation dont j'ai parlé, ce lien de subordination, il est vécu d'une façon personnalisée, de plus en plus par chacun d'entre nous. Et vous savez ce que c'est que ce lien de subordination? Simplement que votre temps de travail, il appartient à l'employeur qui vous paye. C'est à l'employeur, il ne vous appartient pas à vous ce temps de travail, hein. Il appartient à l'employeur qui a le droit et le devoir même de l'organiser en fonction de ce qu'il veut obtenir, lui, en tant qu'employeur. Et donc, vous devez vous conformer à l'organisation du travail décidée par votre employeur, au risque de faire une faute professionnelle si vous n'obéissez pas. Voilà, ne pas obéir, c'est une faute professionnelle qui peut vous faire licencier. Donc, votre temps ne vous appartient pas, il appartient à votre employeur qui en fait ce qu'il veut en termes d'organisation du travail et vous êtes là pour obéir, c'est tout. Alors, on voit bien que maintenant, d'autant plus qu'il y a cette vulnérabilisation des salariés via leur psychologisation, via cette narcissisation, via ce changement permanent, cette mise en concurrence, ces difficultés, c'est pas eux qui vont aller contester quoi que ce soit, émettre de la distance critique pour pouvoir vouloir affirmer un point de vue professionnel sur la question. Non, il n'y a pas de... À part les syndicats, mais qui sont hors organisation de travail. Ce qui est intéressant du côté des syndicats, vous le savez, c'est que vous n'êtes pas, quand vous êtes dans l'action syndicale, soumis au lien de subordination. Vous y échappez. C'est ce qui vous spécifie par rapport aux autres. Quand vous discutez, négociez ou revendiquez avec des supérieurs, vous n'avez pas à leur obéir. Hein. Alors, vous êtes différent. Ben oui, vous êtes différent des autres. Donc, la problématique qui se pose, à mon avis, c'est de mettre tous les autres au même rang que vous. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils soient libérés du lien de subordination pour pouvoir participer à une dynamique de réflexion collective pour transformer le contenu du travail en fonction de trois impératifs, me semble-t-il, qui sont évidemment le respect de la dignité et de la professionnalité des travailleurs. Bon. Deuxièmement, le respect de la satisfaction des besoins des consommateurs et des usagers qui sont complètement maltraités aussi via un marketing qui se nourrit d'intelligence artificielle et de neurosciences. Et puis aussi, troisième objectif fondamental, cesser la prédation des ressources naturelles de notre planète si on veut assurer l'avenir de l'humanité. Il faut repenser le travail. On ne peut plus considérer que le travail, dans sa définition, appartient de façon unilatérale à l'employeur, c'est-à-dire à la direction, à qui il revient de décider comment il doit se faire. Or, on en est là. Le travail, qui est un enjeu fondamental de société, un enjeu politique fondamental, appartient directement à la direction. Voilà. C'est-à-dire que l'avenir de la planète, la façon dont sont traités les salariés ou les agents, etc., la manière dont sont satisfaits, entre guillemets, les besoins des usagers et des consommateurs sont décidés uniquement de façon unilatérale par la direction, qui elle-même est mue par une seule rationalité, c'est la rationalité libérale de rentabilité à court terme, dont on sait qu'elle est totalement délétère de ces trois points de vue. Vous savez, en 1998, je le dis tout le temps, mais le CNPF, qui était le Conseil National du Patronat Français, il s'est rebaptisé le MEDEF, Mouvement des Entreprises de France. Personne n'a rien dit. Mais ça veut dire que le patronat s'est rebaptisé les entreprises. Au niveau symbolique, c'est quelque chose d'incroyable. Et désormais, quand vous entendez les représentants du MEDEF, ils disent, nous, les entreprises, pensons que, nous, les entreprises, avons besoin que, et les syndicalistes ont le même langage. Ils disent, les entreprises, elles nous ont fait ci, les entreprises, il faut les obliger. Ah, et moi, à chaque fois, je dis, c'est les directions des entreprises qui... C'est les directions, il faut distinguer l'entreprise, la direction. Ils disent, ah, oui, c'est vrai. Bon, je disais que l'entreprise, machin, là, il faut vraiment la combattre. C'est complètement intériorisé. Donc, on a, au fond, déposé... au fond de nous-mêmes, cette idée d'une légitimité des directions à décider unilatéralement tout ce qui relève du travail et des entreprises. Voilà, moi je pense qu'il est important qu'on essaye de prendre ce pas de côté, de faire ce pas de côté pour essayer de se poser la question de la légitimité de tout ça, de la dangerosité, par contre, de tout ça par rapport aux défis qui nous sont fondamentaux pour l'avenir. Et je crois qu'un des moyens de commencer à détricoter, déverrouiller le modèle qui est vraiment merveilleusement concocté du point de vue managérial, c'est une petite merveille. comme Taylor l'avait fait, c'est-à-dire cette emprise psychologique, idéologique, d'un côté, le fait de noyer les gens, de les perdre de leurs autres, pour les faire travailler d'une manière extrêmement prédéfinie, par des seuls critères de rentabilité, ça marche très très bien. Si on veut le détricoter, il faut toucher un bout. Alors, on peut dire, effectivement, on va attendre la fin du système capital. Enfin, on va faire la révolution et pour le mettre à bas, le système capitaliste. Bon, mais en attendant, il me semble qu'on peut mettre en évidence le fait qu'il n'y a rien de plus archaïque que le lien de subordination. C'est un lien de vassalité. Parce que tous les syndicalistes me disent « Attention, il ne faut pas toucher au lien de subordination parce que c'est grâce au lien de subordination que l'employeur est responsable de la santé physique et mentale des salariés et il veille sur leur sécurité. » Mais la vassalité, c'est ça. Le Seigneur, il dit « Je lève une armée pour vous protéger contre des invasions. Moyennant quoi, vous allez travailler pour moi. » C'est exactement la même chose. Bon, sortons de ce système. Le lien de subordination, c'est l'assurance-vie du patronat, que rien ne changera jamais. Commençons par dire, les syndicats, les organisations patronales disent que les syndicats sont archaïques, que le code du travail c'est archaïque, etc. Alors, prenons-le au sérieux, allez, on va identifier les choses les plus archaïques. Ben, celle qui bat tous les records, c'est le lien de subordination. Il n'y a pas plus archaïque. Je m'arrête là.
Bravo. Merci. Merci pour cette intervention vivifiante. Alors, point de timing, on a en gros, si je ne me trompe pas, vous me corrigez 10 minutes.
D'accord.
Parce qu'il est 6h-10 et comme il y a un train à prendre et que voilà. Donc, éventuellement, on peut prendre quelques questions courtes pour intervenir. Juste, une petite incise là, sur.
Non.
Ce que tu as évoqué, notamment le va-et-vient entre public et privé, oui. En termes organisationnels et...
En termes de mobilisation,
ouais. En fait, je veux juste faire la promo d'un de tes ouvrages, un peu plus ancien que ceux qui sont sortis aux éditions RS, c'est celui que j'avais beaucoup aimé, c'est « Travailler sans les autres », qui parle de ça, et qui parle aussi de la nécessité de réinjecter une dimension collective dans le travail.
Absolument.
Et ça, franchement, ça fait le point sur un certain nombre de travaux, et puis ta carrière quand même de chercheuse sur ces questions-là. Donc « Travailler sans les autres » est au moins quelque chose de... incontournable. Pauline, si tu veux.
Ouais, moi, je voulais rebondir sur la... merci beaucoup, c'était super. Mais peut-être sur votre conclusion, c'est-à-dire pourquoi rien ne change, et notamment le fait que le verrou principal, donc, ce serait ce lien de subordination. Mais même si le milieu universitaire est un milieu très spécifique, je le trouve intéressant parce que justement, si on prend le cas spécifique des enseignants-chercheurs titulaires, ils n'ont pas ce lien de subordination. On est dans une organisation de
démocratie pour ça. Le devoir d'obéissance s'appelle. Le devoir d'obéissance. Chez les fonctionnaires, c'est le devoir d'obéissance.
Oui, mais alors il y a quand même une grande spécificité où ils ont une capacité à organiser, par exemple, non, mais toute l'organisation de leur travail, c'est-à-dire dans la semaine, c'est quand même très spécifique. Il y a un système d'autogestion dans les composantes ont une grosse marge de manœuvre sur la manière dont leur rapport aux étudiants, en fait, le temps et la tête.